L'émission publique est l'espéranto. Tout a commencé en Pologne dans les années 1870. À l'époque, on parle quatre langues dans la ville de Białystok, le polonais, le yiddish, le russe et l'allemand. Un jeune garçon déchiré entre ces diverses communautés, quatre religions et quatre haines, pense qu'une langue unique serait peut-être un début de solution à tous les problèmes. Ce jeune homme, Ludwig Lazar Zamenhof, va inventer une langue universelle, l'espéranto. L'intérêt d'un tel langage, la facilité d'assimilation et la simplicité du vocabulaire et de la conjugaison. Un alphabet phonétique, la régularité de la grammaire, les exceptions n'existent pas. Les adeptes soutiennent l'idée que l'espéranto serait la langue idéale après sa langue maternelle dans le monde entier pour permettre une communication efficace. Et aucun pays surtout ne serait privilégié comme c'est le cas pour l'anglais aujourd'hui et peut-être pour le chinois demain. Pour nous parler de cette langue universelle, nous allons recevoir deux invités. Xavier Godivier, qui est le président de l'association Espéranto Rennes, et Philippe Beridi. L'espéranto se parle, s'écrit, mais aussi se chante. Nous vous le prouverons en musique ce matin. Et puis on attend vos questions sur le sujet et vos témoignages.
Les missions publiques, 02 99 67 35 35.
On va parler aujourd'hui de l'espéranto avec nos deux invités, Xavier Godivier et Philippe Beridi ou Beridi. Alors, faut-il le prononcer à l'italienne ou à la française? Dites-moi tout.
C'est pas grave, Beridi, je suis
Beridi, c'est bien aussi. Donc, on va parler de l'espéranto. On a mille et une questions à vous poser parce que c'est vrai que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un côté toujours un petit peu mystérieux donc, dès que l'on parle de l'espéranto. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier?
Bah, effectivement, c'est vrai que je me rappelle que lorsque j'ai découvert l'espéranto, c'est vrai que c'était, c'est assez fascinant de voir déjà l'idée d'une langue créée qui permet de communiquer. Et surtout quand on commence à en découvrir un peu plus, on se rend compte que, il y a des gens qui la parlent un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui est fascinant.
Alors évidemment, ça, ce sera un des sujets que nous allons développer. Moi, personnellement, j'ai jamais dans ma vie croisé quelqu'un qui parlait l'espéranto. Donc c'est ça, aujourd'hui vous êtes là avec moi. Alors est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on glisse dans la conversation lorsqu'on se retrouve dans une soirée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant ou pas? Votre réaction?
Moi ce que je dis souvent par rapport à cette question, c'est pas écrit effectivement sur le front, ni par voilà, c'est pas là Anton. De même que c'est pas écrit sur le front que je parle anglais ou que je parle autre chose, quoi. Et donc c'est vrai que pour trouver les locuteurs de l'espéranto, il faut connaître les réseaux associatifs d'espéranto. Et là on se rend compte du coup qu'effectivement il y a des gens qui le parlent un peu partout. Et j'ai eu quand même quelques témoignages de personnes, et ça m'est arrivé j'étais un peu incrédule même, un témoignage de quelqu'un qui disait qu'au Japon, il cherchait de l'aide et il a fini par en trouver en espéranto. Donc c'est, ça peut arriver quand même.
Oui, on avait eu le témoignage ici d'une personne qui a fait 8 ans de tour du monde et qui disait que cette langue l'avait bien aidé au Japon, donc ça ne m'étonne pas du tout. Philippe, est-ce qu'on peut revenir sur l'origine, j'en parlais tout à l'heure, avec Ludwig Lazar Zamenhof, c'est lui qui est à l'origine de la création de cette langue de l'espéranto.
Oui, Zamenhof, c'est l'inventeur de la langue. Il était russo-polonais. C'était en 1887, donc c'est quand même il y a un bon moment, ça fait presque 130 ans. Il vivait en fait dans un endroit qui était à Białystok. C'est en Pologne actuellement, c'était plus ou moins en Russie à l'époque. Et on parlait plusieurs langues, il y avait plusieurs communautés qui cohabitaient à cet endroit. Et l'ambiance était assez mauvaise, hein, pour faire un euphémisme. Et il a beaucoup souffert de violence, de discrimination dans son enfance. Et il s'est dit, peut-être que les problèmes de langue, les problèmes de compréhension sont la base de tout ça. Et il a rêvé à une langue qui soit, qui permette d'unir un peu les hommes.
Les peuples.
Voilà, une sorte d'utopie. Et il s'est dit, je vais la faire. en fait, tout simplement. Alors, c'était pas le premier à avoir fait des langues, parce qu'il y en a eu d'autres depuis Descartes qui ont essayé de créer comme ça une langue internationale. Mais lui a décidé de faire cette langue. Il connaissait plusieurs langues lui-même, et il a travaillé beaucoup, et il a fait quelque chose d'assez étonnant. Parce que l'espéranto, c'est la seule langue internationale créée qui existe encore, en fait, hein, et qui se développe.
D'autres
ont disparu.
Sont déjà en train de mourir ou sont déjà mortes.
On vous expliquera un peu plus tard pourquoi celle-là a survécu et se développe, parce qu'elle est particulièrement bien faite.
Alors, c'est vrai que cet homme-là devait sûrement parler le polonais, avait sa base de polonais au départ. Peut-être parlait-il un petit peu, je ne sais pas, alors on parle de yiddish, d'hébreu.
Il connaissait le français, il connaissait l'allemand, il connaissait le russe, l'hébreu, effectivement, l'anglais. Aussi.
Et l'anglais aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'espéranto, c'est un mélange de toutes les langues qu'il connaissait, ou quand même il y a une prédominance de certaines bases, par exemple latines?
C'est une synthèse de langues essentiellement européennes. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être que l'espéranto, c'est peut-être une bonne deuxième langue pour l'Europe et pour les Européens. On trouve en espéranto pas mal de mots et de racines de l'allemand, de l'anglais, du français, du latin, mais aussi du russe, de différentes langues de l'Europe.
Donc voilà, cette langue est fabriquée à partir de toutes les langues que vous venez de citer. Pour la prononciation, alors là aussi, est-ce qu'il y a une prononciation unique, ou est-ce qu'elle va varier en fonction des pays? Comme une langue étrangère, est-ce qu'on va avoir un accent même en espéranto?
Il y a un accent, mais il n'est pas... Si je compare avec une autre langue internationale bien connue qui s'appelle l'anglais...
Oui, elle est très connue, effectivement.
En anglais, il ne faut pas rater l'accent, c'est quelque chose d'important. Et si on fait des fautes accent, on n'est pas du tout compris. En espéranto, il y a un accent officiel, c'est-à-dire qu'il faut il est bon ton de rouler les R, il faut mettre
un peu comme en espagnol ou en italien.
Voilà, en fait, en espéranto, on dit esperanto.
D'accord. Il y a des accents toniques.
Il y a un accent tonique toujours sur l'avant-dernière syllabe, donc c'est facile. Hein,
d'accord.
Toujours l'avant-dernière.
On le sait, c'est l'avant-dernière, oui.
Mais si vous parlez espéranto avec l'accent chinois, si vous parlez avec même l'accent anglais en faisant les R, de faire des R. Eh bien, on se comprend très bien quand même en pratique.
Je voudrais donner un tout petit témoignage par rapport à l'accent. J'ai été aux États-Unis et j'ai participé à une petite rencontre entre espérantistes québécois et américains. Et c'était très drôle parce que, en parlant, comme j'étais dans un contexte d'espéranto, j'ai parlé surtout en espéranto. Et puis, je parlais à des Québécois un moment en français et j'ai été stupéfait de découvrir qu'ils avaient un accent français extrêmement québécois, comme ça.
Ouais.
Et alors qu'en espéranto, je ne l'entendais pas du tout.
C'est comme le chant.
Voilà.
Les Québécois, quand ils chantent, on n'entend pas qu'ils ont un accent.
Et bah, c'est pareil.
C'était pareil.
L'espéranto, parce qu'il y a un alphabet phonétique, c'est la première chose qu'on apprend lorsqu'on apprend l'espéranto, et bien ça fait qu'on a déjà une base commune de prononciation qui est très très proche. Donc il n'y a pas trop de diversité et c'est vraiment un atout très très important de l'espéranto.
Alors on va voir qu'on parle espéranto évidemment en Europe, mais dans tous les pays du monde, y compris dans des pays comme le Japon. Vous disiez tout à l'heure, Philippe, que c'est quand même basé sur des langues européennes. Ils doivent avoir plus de mal quand même, les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, pour la prononciation que nous, non?
Apprendre une langue européenne, déjà apprendre une langue avec un alphabet latin comme le français ou l'anglais, c'est toujours une difficulté pour des Asiatiques. Donc là, il n'y a pas de magie. Il a fallu faire des choix au départ, et puis il faut travailler, bien sûr, même si c'est très facile l'espéranto. Ceci dit, si on compare à l'apprentissage pour un Chinois, si on compare à l'apprentissage du français ou de l'anglais, pour un Chinois ou un Japonais, apprendre l'anglais, c'est extrêmement difficile. Et l'espéranto est plus facile, même si c'est une langue latine, je dirais, enfin, ou de type européen, c'est quand même nettement plus facile, parce que Xavier a parlé de langue phonétique. Ça veut dire quoi, langue phonétique? Ça veut dire que c'est une langue où ça s'écrit comme ça se prononce. C'est-à-dire qu'on voit une lettre, on sait comment elle se prononce. C'est pas comme en français ou en anglais.
EAU qu'on va dire O, voilà.
En espéranto, le O c'est la lettre O, voilà. le A c'est la lettre A. La lettre A en anglais, il y a 10 façons, 9 ou 10 façons de la prononcer différentes. Hein. En espéranto, un A c'est un A, un I c'est un I. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et tout ça prend très vite. On ne peut pas faire de dictée. Enfin, si on fait une dictée en espéranto, on ne peut pas faire de faute d'orthographe. Si vous voulez, c'est ça que ça veut dire.
Chouette.
Une langue phonétique.
C'est pivot. Qui à être embêté dans cette affaire-là. On va faire une première pause et puis on va vous inviter évidemment à réagir aujourd'hui. Le numéro, on va vous le communiquer dans un instant. Parce que si à un moment ou à un autre vous avez pris des cours d'espéranto, pardon, ça nous intéresse, nous dire quelles étaient vos motivations, si l'espéranto vous l'utilisez lorsque vous partez en voyage. Là aussi, on attend vos témoignages. Et puis si vous avez des questions à poser tout simplement sur le fonctionnement de cette langue, n'hésitez pas.
Les missions publiques, 02 99 67 35 35.
Tom Jones et Mousti, Sex Bomb.
France Bleu Armorique, l'émission publique.
Nous parlons l'espéranto aujourd'hui avec nos invités Philippe Berizi et Xavier Godivier. Xavier, président d'une association ici à Rennes, Espéranto Rennes. Cela signifie, Xavier, qu'au sein même de cette association, on peut s'y mettre, on peut se mettre à l'espéranto.
Oui, tout à fait. On propose des cours premier, deuxième niveau, donc pour les débutants et aussi pour les ce qu'on appelle les progressantoi, c'est-à-dire ceux qui progressent dans leur apprentissage de l'espéranto. Et on propose aussi de temps en temps des stages, donc il y en aura un fin avril, à la fin de ce mois, le 28. Donc si vous êtes intéressé, vous cherchez des informations sur internet, surtout c'est ce qui est le plus facile, vous tapez Espéranto et Rennes et vous nous trouvez très vite.
Alors on parlera évidemment à nouveau de ce stage le 28 avril. Avant de savoir qu'est-ce qui motive les personnes qui vous rendent visite, qui fréquentent cette association, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi avoir appris l'espéranto? Il y a combien d'années déjà que vous le pratiquez, vous, Xavier? Je poserai la question à Philippe après.
Au moins une douzaine d'années, je crois à peu près.
Qu'est-ce qui vous a motivé?
Au départ, je l'ai découvert sur Internet. Et c'est intéressant, j'ai découvert l'espéranto en même temps qu'Internet. Parce que à l'époque, c'était les débuts d'Internet. Il n'y avait pas énormément de choses encore sur l'espéranto sur Internet. Et le site que j'avais trouvé était en anglais pour apprendre l'espéranto, une petite initiation. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert, au départ par curiosité intellectuelle.
Vous parliez déjà d'autres langues ou pas?
Non, pas beaucoup, à part l'anglais, pas tant que ça. Et c'est vrai que ça a piqué ma curiosité, quoi, de l'idée d'une langue construite. Et puis c'est après, en enseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui la causaient ailleurs dans le monde. Et du coup, j'ai appris par moi-même.
Essentiellement. En combien de temps à peu près?
En 15 jours, j'avais appris les bases de la langue. Et après, je dirais qu'après, pour moi, ça a été essentiellement pratiquer la langue.
En 15 jours, vous étiez capable de tenir une conversation?
J'ai trouvé une méthode d'apprentissage de la langue à la bibliothèque. J'habitais en Angers à ce moment-là. J'ai trouvé une méthode d'apprentissage. Et donc, j'ai dévoré le livre en une quinzaine de jours. Et après, j'allais sur des forums sur Internet, des forums où les gens parlaient en espéranto, écrivaient en espéranto, et je comprenais ce qu'ils disaient, ce qu'ils écrivaient. J'ai pu même poser des premières questions.
Alors, où vous êtes doué pour les langues, ou la langue est vraiment facile à assimiler?
La langue est vraiment facile.
Alors, et vous, Philippe, ça fait combien d'années que vous parlez l'espéranto aujourd'hui?
Moi, ça fait entre 15 et 20 ans maintenant.
Oui.
Quand j'ai découvert l'espéranto, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, mais ça marche.
Vous l'avez découvert comment?
Sur un stand, en fait. Ici, parfois, il y a des stands dans certaines manifestations, par exemple. Par exemple, il y a ExpoLang à Paris, où il y a un stand d'espéranto.
Oui, où il est bio guichin, des choses un peu comme ça, où on trouve des produits du commerce équitable ou autre.
Voilà. Donc j'avais acheté un dictionnaire, j'avais acheté un Tintin aussi.
Ça existe?
Oui, Tintin. C'était Tintin, le crabe aux pinces d'or, la crabe au gunorai pinchi ilai. Et j'ai appris, moi, en fait, en décodant le Tintin avec mon dictionnaire. Et puis c'est venu peu à peu. C'est vrai que ça vient vite parce qu'il y a des choses. La langue est tellement régulière, tellement claire et simple que on va mettre un an en un an en désespéranto, on a l'équivalent de l'apprentissage de 10 ans d'anglais. À peu près. Hein. C'est ce rapport-là. Ça peut paraître étonnant, mais il faut le voir pour le croire. C'est dans un rapport de 1 à 10 par rapport à une langue étrangère comme l'anglais. Et puis je peux donner l'exemple. Moi, j'ai l'exemple d'une personne que je connais bien, parce que c'est mon épouse, qui a appris l'espéranto il y a quelques années. Et au bout de 8 mois, elle a fait une conférence au bout de 8 mois, hein, elle a fait une conférence de linguistique sur la langue berbère devant un parterre de personnes de 60 pays. Elle a fait une vraie conférence au bout de 8 mois d'apprentissage de l'espéranto. Ouais.
C'est fou ça. Elle est douée.
Elle est douée, c'est mon épouse, mais c'est
c'est mon épouse, c'est mignon ça.
c'est quand même un petit peu à la portée de tout le monde l'espéranto, hein, faut dire.
Est-ce qu'on peut imaginer que des enfants dès le plus jeune âge peuvent également apprendre l'espéranto?
Alors je dois avouer aussi que j'ai des enfants et qu'ils sont bilingues aujourd'hui, français espéranto. J'ai deux petites filles qui ont 6 ans. Et c'est là. Alors là. Elles ont des copines en fait et des copains qui sont étrangers, donc elles voient pendant les vacances. Par exemple, elles ont une copine qui est une chanteuse de 9 ans qui est suédoise, par exemple, donc elles sont des fans et des amis aussi puisqu'elles la connaissent personnellement. Et ce qui est assez étonnant avec l'espéranto, ben, c'est que des enfants comme ça de 5 ans, 6 ans peuvent parler avec des enfants étrangers et ça n'est possible qu'avec l'espéranto.
Et oui, parce qu'à cet âge-là, ils n'ont pas d'autres apprentissages.
Voilà, en général, ils n'ont pas commencé l'anglais, par exemple, et puis même ceux qui ont commencé n'ont pas un niveau, même des adolescents n'ont pas un niveau pour communiquer correctement. Mm-hmm. Et là, avec l'espéranto, on peut avoir des enfants d'assez jeune âge qui sont tout à fait capables de jouer ensemble, de parler ensemble, de communiquer normalement.
Alors, vous, lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez envoyé un verbe avec la conjugaison pour expliquer, Xavier et Philippe, que l'espéranto, c'est tout ça. Alors, on est parti sur un verbe simple de la langue française, qui est le verbe parler. Parler à l'infinitif, ça va donner quoi en espéranto, si il existe un infinitif?
Oui, c'est paroli.
D'accord. P-A-R-O-L-I.
Voilà.
Il n'y a rien de plus simple.
Ça se prononce. Mm-hmm. Et effectivement, les conjugaisons, on dit souvent, la grammaire de l'espéranto, en particulier les conjugaisons, ça tient sur un ticket de métro, puisque finalement, il y a une terminaison qui suffit pour indiquer le présent, qui est « as ». Donc mi parola, ça veut dire je parle. Vi parola, ce sera vous parlez. Li parola, ce sera il parle. Ni parola, ce sera nous parlons. Vi parolos, etc.
Et est-ce qu'ensuite on va trouver le présent? Alors il y a le présent, le futur. Après, dans les conjugaisons, on arrive à retrouver à peu près tous les temps qu'on trouve dans la langue française.
Oui, parce que donc il y a donc as pour le présent, os pour le futur. Donc mi parolos, ce sera je parlerai. Et puis is, ça va être le passé. Mi parolis. Et après, on peut construire avec le verbe être, qui va être un verbe auxiliaire, comme en français, on va construire des temps composés si on en a besoin. Donc, mi estas parolanta, ça va être je suis en train de parler.
D'accord.
Et on a toute une batterie comme ça de possibilités. Finalement, on a la même richesse de conjugaison qu'en français, sauf qu'on n'a pas autant de terminaisons à apprendre, donc c'est vraiment très très économique.
En français, on a quand même un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe qui en fait est une multitude de verbes qui se conjuguent différemment, et il faut des années pour apprendre à conjuguer les verbes en français.
Alors justement,
et là, vous savez déjà conjuguer tous les verbes en espéranto, parce qu'on a parlé de parolas, mais pour tous les verbes, c'est la même chose.
Alors là, on a pris parler, qui est un verbe extrêmement simple, lorsqu'on apprend même on est à l'école, on apprend à conjuguer des verbes comme chanter ou parler. Vouloir, ça va donner quoi, par exemple, un verbe qui est un peu plus compliqué en français à conjuguer?
En espéranto, le verbe vouloir, c'est voli. Et donc, mi volas, c'est je veux. Li volas, il veut.
D'accord.
Voilà, ça sera toujours aussi régulier. Il n'y a aucune exception dans les conjugaisons.
Voilà, même sur des verbes qui sont très compliqués à conjuguer, comme le verbe acquérir, des verbes qui sont quelquefois très compliqués dans la langue française, quoi.
C'est la preuve qu'une langue n'a pas besoin d'être compliquée pour être riche et puissante, en fait. Il y a l'histoire de la langue française qui fait qu'il y a toutes sortes de conjugaisons un petit peu bizarres et complexes. Zamenhof a recréé une langue et sa préoccupation c'était de faire une langue soit le plus facile possible à apprendre. Donc il se dit, pourquoi faire un premier groupe, un deuxième groupe, des verbes virgules? Ça ne sert à rien en fait, ça n'apporte rien.
Mm-hmm. Alors on va faire une nouvelle pause et puis j'expliquais en présentant cette émission que l'espéranto évidemment se parle, s'écrit et se chante, et vous allez, le prochain disque que vous allez entendre sur notre antenne sur France Bleu Armorique, tendez bien l'oreille, c'est une chanson en espéranto.
Malgré évolue, brira con tu via rebon, urbon propran vi contro,
Voilà, je vais essayer de bien le prononcer, ce nom de groupe finlandais qui chante en espéranto, Dolchamar.
France Bleu Armorique, l'émission publique.
L'ai-je bien prononcé, messieurs?
Oui, oui, très bien.
Ça va?
Je peux ajouter ce qu'il disait essentiellement dans la chanson,
oui.
C'est « Ni besonas unain idealistoin qui donus faireron a la popoloi ». Ça veut dire « Nous avons besoin de jeunes idéalistes qui donnent le feu au peuple ».
Au peuple.
Donc, vous voyez, c'est un titre très, très idéaliste.
Elles sont toujours comme ça, les chansons en espéranto?
Oh, bah, il y a de ça, mais il y a un peu de tout en espéranto, vraiment. Il y a des musiques très calmes, il y a des musiques très enthousiastes, et puis il y a tous les styles aussi.
Tous les styles, oui, parce que là, on a écouté, ça fait plus chansons de variété,
oui.
On va dire ça.
Voilà.
On peut trouver, alors, quand vous dites tous les styles, il y a du hard rock en espéranto.
Oui, oui. J'ai pas osé vous en envoyer, mais il y en a.
Si vous auriez dit, c'est
oui.
Rigolo.
Il y a en particulier un groupe polonais qui fait un très grand succès, qui s'appelle Krior de Morto, qui veut dire le cri de la mort,
ouais.
et qui chante en polonais et en espéranto. Et c'est intéressant à les voir sur scène parce qu'ils sont habillés avec des peintures sur les visages, genre tête de mort. Enfin, c'est très très, très impressionnant.
Il y a un autre exemple qui est plus connu en fait, même du public,
oui.
C'est que la chanteuse de Dolchamar qui a quitté le groupe il y a quelques années est passée dans un autre groupe, c'est le groupe qui a gagné l'Eurovision l'an dernier.
Ah, ceux qui étaient en espèce de monstre,
oui.
Là
aussi, voilà.
Ah,
exactement.
Oui, d'accord. Ah, ouais.
Voilà, alors, c'est un peu cette ambiance-là.
Donc là, en l'occurrence, le groupe qu'on vient d'entendre est finlandais, des groupes de musique et qui chantent en espéranto. Il y en a dans le monde entier, on en trouve quasiment dans tous les pays.
Il y a des chanteurs français, il y a des chanteurs...
Qui est français? On peut citer un ou deux noms, comme ça vous en avez en tête?
Alors, il y a le groupe, je vous ai passé un CD d'un groupe qui s'appelle Corré, qui veut dire avec du cœur, et qui est actuellement dans la région de Saumur et qui a produit un album en espéranto.
Alors, l'espéranto, ça a été longtemps une langue confidentielle, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, est-ce que on pourrait parler de révolution? Est-ce que c'est en train de...
Complètement.
Ouais, c'est ce que vous pensez.
Il s'est passé avec le web et Internet, il s'est passé une vraie révolution, c'est le mot, le deuxième âge de l'espéranto. Ce qui se passait avant Internet, c'est quand on parlait espéranto, on l'utilisait essentiellement de façon écrite. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de la correspondance avec des personnes à l'étranger. Et puis, on allait vraiment le parler que pendant les vacances, quand on allait voyager, rencontrer des personnes dans d'autres pays.
Et encore, on n'était pas sûr de les croiser.
Oui, mais ceci dit, il y avait des rencontres organisées, il y a un réseau d'hébergement aussi, de tourisme libre, il y a des
voilà.
Choses comme ça. Ce qui s'est passé à partir de l'avènement d'Internet, c'est que du jour au lendemain, quasiment, on a pu utiliser l'espéranto quotidiennement. Donc ça a changé beaucoup de choses. Deuxièmement, aussi, il est devenu très facile de trouver des moyens d'apprendre l'espéranto. C'est-à-dire qu'avant, pour apprendre, il fallait chercher à partir un petit peu à la recherche dans les librairies de bouquins, de cours, et c'était pas toujours évident à trouver. Ou trouver des associations, là c'était plus facile. Maintenant, vous allez sur Internet, vous cherchez espéranto, vous trouvez des centaines de milliers de pages, il y a plein de cours sur Internet, c'est vraiment simple. Et puis il y a eu même une révolution dans la révolution, c'est qu'il y a quelques années, il y a 3-4 ans à peu près, il a apparu des systèmes de téléphonie gratuits, genre Skype,
oui.
Et ça a permis de communiquer oralement, cette fois-ci, à l'autre bout du monde. Et ça devenait simple et gratuit de parler pendant une heure avec un Chinois, en espéranto, bien sûr. On avait à la fois l'outil technique gratuit qui était
le Skype,
voilà. en l'occurrence, et puis l'outil, la langue gratuite aussi, finalement, qui était l'espéranto. Et ça a changé beaucoup de choses, parce que maintenant, on peut parler en espéranto tous les jours, mais parler oralement avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Et ça, c'est grandiose.
Qu'est-ce qu'on se raconte lorsqu'on est... espérantophone à l'autre bout du monde, par exemple, si est-ce qu'on parle de la pluie et du beau temps?
Il y a un peu de tout, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'espéranto, c'est une langue, donc ça permet de communiquer, et donc de communiquer sur n'importe quel sujet. Alors, il existe des associations sur... Vous parliez tout à l'heure en aparté des radios amateurs. Il existe une association de radio amateurs espérantistes. Et donc, ils vont utiliser l'espéranto entre eux, qui vont organiser des événements en espéranto. Il existe des associations association de cyclistes espérantophones qui organise des caravanes. J'ai participé moi-même, j'ai organisé une petite caravane de Barcelone à Strasbourg il y a quelques années. Voilà, ça peut être utilisé finalement dans n'importe quel thème. À partir du moment où les espérantistes, ils ont une langue en commun, mais ils vont aussi avoir peut-être des passions en commun, donc ils peuvent discuter de leurs passions communes en espéranto.
Alors pour comparer avec les radios amateurs, on en parlait à l'instant, certains sujets étaient tabous lorsqu'ils avaient un contact à l'autre bout de la planète. On ne parlait pas de religion, on ne parlait pas de politique. Est-ce que c'est le cas avec l'espéranto ou est-ce que là aussi il y a des sujets qu'on n'aborde pas?
C'est intéressant de voir que la plupart de ceux qui apprennent l'espéranto, c'est vrai qu'ils ont une démarche commune qui est celle d'une ouverture vers les autres. Et c'est très intéressant de voir que... J'ai parlé avec des gens de différentes religions en espéranto et ils sont toujours très ouverts, ils sont pas sectaires. La plupart ont appris déjà la langue avec l'état d'esprit qui est d'être ouvert sur les autres. Donc non, je crois qu'on peut parler de tout.
Il y a un état d'esprit quand même au départ pour apprendre l'espéranto. Il y a quand même une démarche intellectuelle qui est un petit peu différente.
Ce qui unit tous les espérantophones, c'est que ce sont tous des gens qui ont décidé d'apprendre. C'est, si on compare à d'autres langues où il n'y a pas spécialement de choix, l'espéranto, vous apprenez l'espéranto parce que vous avez choisi de l'apprendre. C'est-à-dire que vous avez décidé vous-même, je vais apprendre l'espéranto, je vais parler avec d'autres personnes, d'autres pays, très vite, et ces gens ont fait le même choix que moi.
Et pourquoi ?
Déjà l'envie de communiquer avec les étrangers, enfin c'est considérer l'étranger, je dirais non plus comme un problème ou comme quelque chose de bizarre qu'on ne comprend pas, et on décide tiens je vais décider. C'est comme je dirais tout Européen pourrait virtuellement par exemple décider d'apprendre l'espéranto, ça pourrait même organiser globalement si les dirigeants, enfin si les gouvernants le souhaitaient. Mais on pourrait très bien dans 5 ans, on pourrait très bien, s'il y avait une volonté politique, on pourrait très bien dans 2, 3, 4, 5 ans faire que tous les citoyens européens puissent communiquer librement les uns avec les autres, sans traducteur, sans interprète, parce que il faut peu de temps pour apprendre cette langue et c'est juste une question de volonté.
Alors il y a quelques années, cela semblait totalement utopique. Ce que vous êtes en train de dire, faut être honnête. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plus concret ?
Techniquement, c'est réalisable. Comme
je disais, mais dans l'esprit des gens.
Ça, ça viendra peut-être. Je pense que il y a des choses qui paraissaient insensées il y a 50 ans, il y a 20 ans et qui existent aujourd'hui. Il y a des choses comme ça qui paraissent bizarres aujourd'hui et qui finalement dans 20 ans seront peut-être dans le quotidien de toutes les personnes.
Surtout que là, ça semble utopique, mais si on regarde, qu'est-ce qu'on nous propose en dehors de ça? Qu'est-ce qu'on nous propose comme autre possibilité de communication linguistique en Europe, par exemple? On nous dit que on va promouvoir le fait de parler deux ou trois langues en dehors de la sienne, mais dans la pratique, on voit bien qu'en fin de compte, on privilégie uniquement l'apprentissage de l'anglais. Et on voit, est-ce que ça marche? On voit, vu la masse d'argent, d'efforts qu'on y met, quel est le résultat? Le résultat, il n'est pas à la hauteur. Donc on voit bien que ça ne marche pas.
C'est pas seulement en France. Hein. On tape souvent sur la France et les Français là-dessus, mais le problème, il est
au niveau européen déjà.
Et ce qui est paradoxal, je trouve, c'est qu'effectivement, très souvent, on va nous dire, mais espéranto, ça ne marche pas, mais tout simplement parce qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé, alors qu'on voit bien que on est en train, depuis des années, des décennies même, d'apprendre massivement l'anglais, avec un résultat qui est vraiment décevant. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas l'espéranto qui marche pas, c'est l'anglais qui ne marche pas.
Alors, on n'est pas bon en langue non plus, on n'a pas trop envie de faire des efforts. Alors, apparemment, cette langue-ci est plus facile à apprendre. On dit pourtant que l'anglais est extrêmement simple à assimiler. J'ai quelques doutes.
C'est très difficile à maîtriser, l'anglais. Les premiers pas sont relativement faciles en anglais, mais on s'aperçoit que pour parler bien en anglais, il faut des années et des années, qu'on peut très bien atteindre l'âge de 40 ans et 50 ans et ne pas du tout être capable de parler anglais correctement. La plupart des gens, regardez, qui est capable de regarder un film américain, une série télé américaine en VO non sous-titrée?
Non,
quasiment personne. Et c'est pas seulement en France, c'est dans tous les pays pareil, il faut pas se faire d'illusion. L'anglais, en vérité, est une langue réellement difficile.
On va faire une nouvelle pause et puis ensuite on va parler de ces réseaux qui existent à travers le monde entier, où à partir du moment où vous pratiquez l'espéranto, eh bien vous êtes accueillis les bras ouverts. On en parle avec nos deux invités et puis si vous voulez intervenir dans cette émission, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps. J'étais une aile à toute allure. Oh, we. Marc Lavoine et Kinan, j'espère.
France Bleu Armorique, l'émission publique.
Et on est avec nos deux invités, Philippe Berizy, c'est ça, voilà, excusez-moi, et Xavier Godivier. On parle de l'espéranto jusqu'à 11h. Avant de parler de ces réseaux, il faut quand même revenir 5 secondes sur les traductions. On trouve aujourd'hui tous les ouvrages traduits en espéranto. Ça passe de la bande dessinée à la Bible, en passant par des ouvrages de littérature classique comme Zola ou encore Balzac.
À peu près toutes les grandes œuvres littéraires ont été traduites en espéranto. Ça va, je parlais de Tintin tout à l'heure, il y a aussi Astérix, il y a Gaston, il y a le petit Spirou, des choses comme ça. Après, vous avez la Bible, le Coran, et je parle des grandes œuvres littéraires, donc du Shakespeare, dont on pourra en citer. Il sort plusieurs livres, plusieurs ouvrages en espéranto par mois.
Voilà, ce qui signifie aussi que des ouvrages japonais, chinois, peuvent être traduits en espéranto, qu'on peut découvrir ainsi la littérature de ces pays. Alors vous allez me dire, ça peut être traduit en français aussi, mais bon, c'est une autre démarche.
Moi qui ne suis pas très manga, par exemple, j'ai lu des mangas, c'était des mangas en espéranto.
Et ça passait.
Impeccable.
Voilà, parce que c'était l'espéranto aussi. Alors les réseaux, ils existent dans le monde entier. On l'avait vu avec notre invité, c'est d'ailleurs grâce à elle, on la remercie, qu'on a pu avoir vos contacts aujourd'hui, ces réseaux permettent ainsi de se retrouver et de parler l'espéranto dans le monde entier. Comment se tenir au courant et comment savoir où se trouvent les gens qui vont nous accueillir à l'autre bout de la planète?
Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'espéranto est diffusé essentiellement aujourd'hui par un réseau d'associations à travers le monde entier. Donc il y a des associations locales, comme ici à Rennes, mais il y a des associations sur toute la Bretagne, dans tous les départements, vous avez plusieurs associations d'espéranto en Bretagne. Mais vous avez aussi des associations nationales et puis des associations internationales. Et alors c'est surtout les associations internationales qui travaillent à faire des annuaires d'associations et des annuaires aussi de personnes. Il existe en particulier un petit annuaire qui s'appelle le Passporta Servo, Service Passport, et qui recense, alors je ne sais plus combien est-ce qu'il y a, plus d'un millier d'adresses à travers 80 pays, je crois, de personnes qui sont prêtes à héberger des personnes qui parlent espéranto, qui seraient de passage dans leur région.
Gratuitement, je pense.
Voilà. Alors, c'est un peu le principe de la chambre d'hôte. C'est un peu ça.
Oui, mais gratuit.
Voilà. Non, mais c'est important, voilà. C'est vraiment un échange. Donc, on sait que, par exemple, on va arriver, je dis n'importe quoi, à Vignoc, à côté de Rennes.
Oui.
Et là, il y a un couple ou quelqu'un qui parle espéranto, qui vous ouvre sa porte.
Il y a tout un réseau touristique espérantophone, non commercial, en fait. Comme c'est un mouvement essentiellement associatif,
ouais.
On peut tout à fait visiter la planète entière, simplement en allant soit chez des personnes, donc avec ce réseau d'hébergement, soit on peut tout à fait sortir des sentiers battus, je dirais, du tourisme commercial
traditionnel,
classique,
ouais,
qui est concentré dans certaines zones géographiques particulières, et en fait aller visiter des gens dans des banlieues, dans des coins les plus reculés ou de provinces de pays lointains. Et là, ce qu'on va voir, c'est des personnes, hein, c'est des contacts de personne à personne.
Est-ce qu'on peut imaginer, alors ça pareil, ça fait toujours partie des idées reçues que j'ai, hein, moi aussi, je ne m'en cache pas, est-ce qu'il n'y a pas certains pays où ça va être plus facile de communiquer que d'autres? On sait que, pour des raisons politiques, entre autres.
Pour donner un exemple, un pays qui pourrait paraître surprenant, c'est l'Iran. Il y a beaucoup d'espérantistes en Iran. Et donc, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont, au cours de leur cours du monde, avaient été en Iran et ont été reçues et à bras ouverts, vraiment par des gens qui étaient heureux de les recevoir, parce que faut bien voir que dans certains pays où il est très difficile de voyager, où il est très difficile de sortir de ses frontières, recevoir un étranger, c'est une manière de voyager. Et donc tous ces gens-là, ils étaient au contraire extraordinairement bien reçus. Donc c'est fabuleux de savoir
donc
ça.
Donc voilà, effectivement, voilà. Je pensais à ces pays-là, donc l'Iran, c'est assez surprenant. Quelquefois aussi en Chine, on peut là aussi il y a
en
des
Chine,
gens
c'est
qui...
pareil, oui.
Là
oui,
aussi on trouve oui, des espérantophones.
Il y a eu pas très longtemps, on parlait de Skype tout à l'heure, il y a eu une conférence entre deux écoles, une en France et une en Chine, où les enfants ont pu directement parler. Il y avait des écrans géants et les enfants des deux écoles entre la France et la Chine pouvaient directement se poser des questions.
S'exprimer en espéranto.
Voilà.
Donc, on va être obligé de conclure parce que je voudrais qu'on écoute un tout petit morceau d'un disque, cette fois-ci d'un groupe français. Très sincèrement, vous pensez que l'espéranto, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est la langue de demain.
C'est déjà la langue d'aujourd'hui.
C'est la langue d'aujourd'hui pour pas mal de personnes. Il serait bien, effectivement, que ce soit la langue de demain pour encore beaucoup plus de personnes.
Philippe, Xavier, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Avant de nous séparer, on va donner un numéro de téléphone pour tous les gens qui ont envie de s'y mettre. Ça y est, de prendre des cours d'espéranto, oui. Un numéro et une adresse internet.
Donc, vous pouvez retrouver des informations sur esperanto.net, plus généralement.
D'accord.
C'est vraiment le site le plus simple pour trouver des informations. Sur Rennes, vous trouvez esperantorennes.free.fr.
Et un numéro pour vous joindre?
Et alors, mon numéro de téléphone, 06 30 96 96 32.
Messieurs, merci. Comment dit-on au revoir en espéranto?
Gis revido.
Gis revido.
Et on se quitte avec un groupe français qui chante en espéranto. Merci, messieurs. Et à bientôt, le nom du groupe?
Corré.
Voilà, merci.
Avec du cœur.
Ça m'en service.
Neso bien via vive de dicho. En bas de mi, en mal felicio. Charvin estas nun en mi. De qui gis la envio. Impulse qui el best en cagio. Mi pleni jazz per sovaggio. Sen amichemo in spirito. Tu il por mortas confido. Neso vitra penetris mi. Digis cor caianin. Mia vive in via mano, ci cura sede, ci malzano, e sia acciatosa fonte.